Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Pourquoi choisir ? Elle voulait tout, elle a tout. Et rien n'est plus légitime que sa réussite à la télé, au théâtre et au cinéma. Audrey Fleurot est une actrice ardente et imprévisible, comme devraient être toutes les actrices. Après Engrenage, après Le Bazar de la Charité, Audrey Fleurot va, dès jeudi prochain, secouer le monde de la télé et réjouir les Français avec une série hors norme sur TF1 HPI, une série totalement addictive et transgressive grâce au personnage délicieusement barré d'Audrey Fleurot. Morgane Alvaro, femme de ménage, 3 enfants, 2 ex, des tonnes de galères financières, mais un QI de 160 grâce auquel la police va la recruter, elle qui déteste les flics. HPI, vous l'aurez deviné, contraction de haut potentiel intellectuel, a donc tous les ingrédients du succès et je reçois son héroïne, notre Jessica Chastain à nous. Oui, je le dis tout de suite, je suis fan de cette nana.
Europe 1.
Bonjour Audrey Fleurot.
Bonjour.
Cher Audrey Fleurot, bon, manifestement, parce que j'ai bien compris que vous êtes une hyperactive, manifestement vous trouvez votre équilibre et votre vérité dans l'enchaînement permanent de rôles et de personnages, tous plus forts les uns que les autres. Alors, vous contentez d'une seule vie, la même, toujours et encore, comme pour ceux qui ne sont pas acteurs. Franchement, ça aurait été inconcevable pour vous.
Ah bah moi, c'était mon inquiétude numéro un, très tôt en fait. J'ai eu ce sentiment que je ne comprenais pas comment les gens arrivaient à se satisfaire. En tout cas, je sentais que n'importe quel choix excluait un champ de possible qui restera inconnu. Et ça me semblait impossible pour moi. Donc, l'envie d'être sur scène, elle a toujours été là. J'ai mis un peu du temps à savoir par quel biais, encore que... Si je pouvais passer de la danse au cirque, au théâtre, moi, à la comédie musicale, je serais ravie.
Mais oui, parce que vous avez expérimenté 1000 choses avant d'arriver à la comédie ou au théâtre. Et
oui,
on va évoquer tout ça.
Je savais que je voulais faire de la scène, mais je ne savais pas forcément par quel biais. Mais en tout cas, c'est vrai que l'idée d'incarner des personnages, c'est très psychanalytique. Hein, de toute façon, c'est un métier assez psychanalytique. Me donnait la possibilité pendant 2 mois, 6 mois d'être quelqu'un d'autre. Et comme on ne travaille qu'à partir de soi, de sa matière première, eh ben, en fait, si vous voulez, dans un personnage n'a peut-être que 10%, ne fait écho peut-être qu'à 10% de votre intériorité. Mais ces 10%-là, vous allez pouvoir les booster pour en faire 100% pendant un certain temps. Donc, c'est très cathartique.
Bien sûr. Mais alors, avant de parler du jeu, je voudrais qu'on revienne vraiment à vous. Bon, dans la vie vraie, on joue tous un rôle. Mais le problème, c'est que le casting, il est définitif. On a un rôle tout au long de notre vie. Je voudrais vraiment savoir pourquoi, au bout de 15 jours, paraît-il, le quotidien vous angoisse.
Je trouve ça dur. Moi, je suis très... d'admirative, justement, des gens qui peuvent faire toute une carrière dans la même entreprise, même si c'est, je pense, de moins en moins le cas. Et je pense que les gens se réinventent de plus en plus parce que les gens perdent leur boulot, que les gens ont ras-le-bol de la ville, donc ils partent à la campagne ou carrément à l'étranger. Donc j'ai l'impression que de plus en plus, quand même, c'est un schéma qui a tendance un peu à disparaître. Mais c'est vrai que... J'en sais rien, c'est problématique aussi de ne pas être doué pour le quotidien. C'est pas évident pour l'entourage. Moi, j'aime les aventures humaines, que ce soit un tournage ou au théâtre. C'est une nouvelle équipe à chaque fois, c'est un projet commun. Il y a un côté colo, il y a un enthousiasme. On est porté par quelque chose. Et puis c'est vrai que j'ai tendance à fonctionner à... Je regarde beaucoup... Enfin, je ne suis pas très nostalgique, je regarde toujours en avant. Donc quand j'ai fini quelque chose, c'est de l'ordre de l'adrénaline, hein, je pense. C'est comme un sport où... vous avez déjà envie de raconter une nouvelle histoire, d'être encore quelqu'un d'autre, d'être embarqué dans... le quotidien, c'est un sport qui demande...
De l'endurance aussi.
De l'endurance, ouais. Et c'est pas ma facilité, mais...
L'endurance, vous l'avez pour d'autres défis.
Voilà. Avec le confinement, je m'y suis mise. Hein, et ma foi, c'est un sport. Donc, au bout d'un moment, on finit par y arriver.
Alors, Audrey Fleurot, vous ne cessez, on va en parler, vous ne cessez de tourner. Vous êtes extrêmement sollicitée. Théâtre, télé, cinéma. Vous jouez même à l'étranger. Vous avez joué Tartuffe à Londres, en anglais. Enfin, on va parler de toutes ces expériences. Vous êtes une hyperactive. Et donc, quand on est sans cesse sur scène, sans cesse dans la lumière et sans cesse cerné par les caméras, ça doit devenir assez abstrait, le quotidien.
Oui, c'est certain. Il y a une certaine forme de déconnexion avec la réalité, c'est certain. Mais c'est aussi une forme de fuite, d'être dans les histoires, d'être dans le romanesque. Je ne m'en cache pas. Hein. C'est aussi une forme de protection, parce que je trouve que la réalité, elle est dure, elle est violente. Elle offre pas beaucoup de perspectives enthousiasmante, et c'est vrai que d'aller d'aventure en aventure, de passer son temps à raconter des histoires, c'est une certaine forme de fuite en avant dont j'ai bien conscience. Je ne suis pas en train de vendre les mérites de cette vie-là. Il se trouve que pour moi, c'est celle qui me correspond. Encore une fois, je suis très admirative des gens qui, eux, envisagent les choses de façon complètement différente. Et je suis bien heureuse d'avoir un homme à la maison qui, lui, a un don pour le quotidien. Vous voyez, il faut quand même...
Alors, chère Audrey Fleurot, ceux qui vous aiment vont vous aimer encore davantage quand ils vont vous découvrir, à partir donc de jeudi prochain sur TF1, dans HPI, série policière qui n'a rien des codes habituels et dans laquelle vous incarnez Morgane Alvaro, donc femme de ménage grande gueule, totalement décomplexée, fantasque, hors des clous, dont le QI de 160 fait qu'elle va être recrutée par la police comme consultante. Il y a un petit côté Irène Brockovich quand même dans ce personnage insoumis, sexy, fonceur.
Ah oui, c'était une des inspirations de départ, tout à fait.
Ah d'accord, trivial. Anti-flic alors qu'elle doit bosser avec la police, sans filtre, et puis sexy comme Julia Roberts à sa meilleure époque.
Oui, mais moi ce que j'aime, c'est sexy un peu comme on peut l'être en pré-ado quand on cherche sa féminité. Quoi, voilà. Il y a quelque chose de... Bon, enfin, moi je perçois ça, ce côté un peu outrancier, cette façon de s'habiller et de parler de façon très outrancière comme une forme de protection, finalement, elle montre tout pour mieux cacher, quoi.
Alors, Audrey Fleurot, on projette immédiatement, simplement à la lecture d'un manuscrit, ce qu'on va pouvoir faire d'un personnage.
Oui. En tout cas, moi, là, je voyais très bien, je sentais que j'allais pouvoir apporter quelque chose à ce personnage, j'allais pouvoir la ramener à moi. Je sentais que j'avais de l'espace pour mettre mon humour à moi et que j'avais une sorte de carte blanche, quoi. Et c'est vrai que ça correspondait aussi totalement à ce dont j'avais envie à ce moment-là de ma carrière. C'est même bizarre de dire ce mot, mais oui.
Ah, on peut carrément dire ce mot, oui.
Et puis j'ai un vrai goût pour la comédie. C'est quelque chose que j'aime. Moi, j'aime beaucoup la comédie.
Mais on vous découvre dans ce registre, à ce point-là, quand même.
Ce qui est assez drôle, c'est que selon le prisme par lequel on me connaît, c'est des. Au cinéma, j'ai quasiment fait que de la comédie. À la télé, plutôt du drame, oui. Effectivement, des rôles forts. Donc. Moi, j'ai toujours fait un maximum d'écart. C'est ce qui m'intéresse. J'ai jamais pensé.
Et au théâtre, Strindberg, Claudel, Goldoni.
Oui. Moi, c'est vraiment. Moi, je viens du théâtre classique. Je viens du théâtre subventionné. C'était vraiment ce que je voulais faire. Et puis, c'est en me voyant jouer au théâtre à Lyon qu'Alexandre Astier me propose Kaamelott. Je suis très contente.
Voilà, dans laquelle vous nous êtes apparue donc pour la première fois à la télé.
Donc voilà, oui. Donc moi, ce que j'aime, c'est les écarts. Mais c'est vrai que là, j'avais envie de comédie et je sentais que ce personnage, j'allais pouvoir en faire mon clown et non pas mon clone, hein, parce que j'ai déjà dit cette phrase. Et les journalistes ont dit Morgane est le clone d'Audrey Fleurot. Alors, ça n'est pas mon clone, hein, elle est vraiment loin de moi, mais c'est mon clown dans le sens où c'est comme le masque, c'est un rapport assez enfantin et assez naïf aux choses. Et j'ai senti à travers ce personnage que j'allais pouvoir en faire mon clown.
Elle a entrebâillé ouvert 1000 portes avant de véritablement prendre son envol. Audrey Fleurot, on va tout de suite justement mettre en lumière le premier chapitre de son histoire et plonger dans son enfance, agiter les souvenirs. On se retrouve tout de suite après une très courte pause en compagnie d'Audrey Fleurot.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Rebelle, drôle, fantasque et surdouée, telle est Morgane Alvaro, alias Audrey Fleurot, héroïne de la nouvelle série très attendue de TF1 HPI qui démarre jeudi à 21h. Bah en attendant, nous, on fait le monde avec Audrey Fleurot. Cher Audrey Fleurot, c'est pas si fréquent d'avoir un papa pompier. Et c'est encore moins fréquent d'avoir un papa pompier de service à la Comédie Française. Alors, votre vocation, il paraît qu'elle est née d'un éblouissement l'année de vos 9 ans, lorsqu'un soir, votre père vous a embarqué avec lui et installé sur un strapontin dans les coulisses. C'est vrai, cette histoire ?
C'est vrai, mais en même temps que vous l'évoquiez, je me rends compte que c'est quand même ma maman qui a vraiment insisté en disant à mon père, bon, emmène la gamine.
Ah oui, parce que si la maman n'avait pas dit emmène la gamine, peut-être que la vocation n'aurait pas pu
le clore. Voilà, donc je dois quand même les remercier vraiment tous les deux, parce que lui, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des pompiers de service, je crois qu'il n'y en a plus maintenant, ou plus systématiquement.
Ouais.
Et donc, il était régulièrement de garde à la Comédie Française. Et c'est aussi parce qu'un soir, elle a insisté en disant emmène la gamine qui m'a emmenée. Mais c'est vrai que c'est un souvenir très fort. Faites attention à ce que vous faites avec vos enfants, parce qu'il suffit d'une fois pour avoir une vocation. C'est une épiphanie, voilà. Je suis sur le strapontin du pompier de service et donc je vois à la fois de la scène le spectacle, mais je vois également les changements de décor, les acteurs.
Vous êtes divinement placé à cet endroit-là.
Je vois les deux, quoi. Je vois la salle et la scène et voilà.
Vous avez réalisé ce soir-là que vous étiez sur une autre planète.
En tout cas, j'ai vraiment très clairement su que c'est ce que je voulais faire. Je voulais être sur scène. Et après, c'est vrai qu'à partir de 10 ans, j'ai plus ou moins organisé ma vie pour en faire mon métier. Ouais.
Mais combien de fois êtes-vous retourné alors à ce poste d'observation si privilégié à la Comédie Française ?
Non, mais c'est ça qui est fou, c'est que je pense qu'il a dû m'emmener peut-être deux fois en tout et pour tout, quoi.
J'imagine que vous avez insisté pour que votre papa vous réamène à nouveau.
Oui, bien sûr. Bien sûr, mais je sais pas, je suis pas sûre que ce soit si simple non plus pour le pompier d'amener sa fille, en fait. Je suis pas sûre qu'il avait vraiment droit, en fait. Donc c'est resté exceptionnel, mais enfin, il a suffi d'une fois. Donc.
Audrey Fleurot, effectivement, pompier, ça n'est pas du tout un métier anodin, c'est même l'un des plus dangereux au monde. Pas d'humeur, pas d'état d'âme, faut le cran d'aller au feu pour sauver les autres. Est-ce que vous aviez peur pour votre papa quand vous étiez enfant ?
Non, je crois que j'étais totalement inconsciente. Pourtant, j'ai grandi en caserne, hein, donc j'ai grandi vraiment avec la sonnerie au milieu de... Je me souviens qu'on avait un grand gymnase et que pour les enfants, c'était absolument génial. Mais il n'en parlait pas du tout. Donc en fait, vous savez, les enfants, ils s'habituent à tout, hein. Tout leur semble normal quand ça fait partie de leur vie depuis toujours. C'est bien après, c'est à l'adolescence que j'ai réalisé, en fait.
Et vous l'avez questionné, il paraît qu'un jour, il a eu les larmes aux yeux.
Oui,
il taisait des choses affreuses auxquelles il avait assisté, c'est ça ?
Oui, à une époque où je crois qu'il n'y avait vraiment pas de psychologue. Ils n'avaient personne à qui parler.
Maintenant, il y a pour les pompiers.
Ils sont très encadrés. Oui, ils sont très encadrés maintenant. À l'époque, il n'y avait rien du tout. Hein. C'était... Donc je lui sais gré d'avoir fait cette barrière totale, quoi. Il nous a totalement épargné son quotidien.
Alors vous dites que vous avez grandi en caserne, ça aussi c'est pas anodin. Et j'imagine que pour un enfant c'est un terrain de jeu absolument prodigieux, tellement inattendu.
Oui, surtout que j'avais pas de frères et sœurs, donc là c'est vrai que le côté vie en communauté c'était chouette parce qu'il y avait il y avait d'autres enfants, et puis au bout d'un moment, ma maman, on a eu ras-le-bol de vivre en caserne, parce que c'est aussi très contraignant pour la vie de famille, quoi. Mais c'est un beau souvenir. Pour des enfants, c'est vraiment super.
Alors, je reviens à votre vocation, Audrey Fleurot. Bon, voilà, rêver de faire de la scène, parfait. Mais pour ça, il faut trouver le bon mode d'expression. Alors, il paraît que vous avez commencé par l'école du cirque,
oui.
Dani Fratellini, c'est ça ?
Oui, j'ai fait l'école du cirque. J'adorais ça, c'était très dur. Était très dure.
Annie Fratellini, oui, c'est vrai, très exigeante.
Ouais, elle était un peu méchante.
Ah,
mais
bon.
J'adorais ça. C'était très contraignant parce qu'il fallait faire absolument tous les agrès. Et puis après, vous vous spécialisez dans quelque chose, mais dans un premier temps, il fallait tout faire et autant.
Alors quand vous dites tous les agrès, c'est-à-dire il faut être fil de feriste, il faut faire du trapèze,
il faut faire du jonglage. Et moi, j'ai toujours détesté le jonglage. Et j'aurais fait en tout dans ma vie, j'ai compté quand même 6 ans de jonglage. Parce qu'après, j'ai refait du cirque après. Et je suis incapable de jongler avec 3 balles. Je ne connais personne qui peut faire du jonglage pendant 6 ans sans être capable de jongler avec 3 balles. Donc il y a vraiment une forme de rejet total avec le rejet.
Mais vous aviez quel âge ? Parce que, par exemple, après le bac, vous êtes inscrite à la Sorbonne, vous avez poursuivi vos études avant d'intégrer l'ENSAT, la fameuse école de la rue Blanche, finalement transposée à Lyon.
Oui.
Donc vous aviez quel âge quand vous étiez à l'école du cirque ?
Ben, je pense que j'ai fait ça de 8 à 12, quelque chose comme ça.
Ah ouais. Oui, très très jeune.
Ouais.
Mais vous dites que vous vous êtes rendu compte à l'adolescence que vous n'aviez pas un physique de circassienne.
Ouais.
Alors c'est quoi un physique de circassienne ? Il y a un physique spécifique pour le cirque ?
Bien sûr, il ne faut pas être trop grand, il faut être plutôt petit et plutôt fin. Surtout pour moi, ce qui me plaisait, qui était la contorsion, le fil, le trapèze. C'est des physiques comme des physiques de danseuse.
Dans quel exercice étiez-vous la plus douée, la plus virtuose, Audrey Fleurot ?
J'étais assez forte en fil.
Ah oui ?
Ouais, j'étais forte en fil et en contorsion. J'étais très souple, mais je voyais aussi qu'on était très dépendant de son corps et que la moindre blessure mettait un terme à votre carrière pour un bon moment, voire définitivement.
C'est vous qui avez décidé d'arrêter, en fait, d'aller à l'école du cirque ?
Oui, parce qu'après, ça devenait plus engageant, ça devenait plus professionnel. Et j'ai senti que c'était pas mon mode d'expression, je serais jamais une grande circassienne. C'est un peu comme le sport, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai fait plein de sports. J'ai toujours arrêté au bout de 3 ans, dès qu'il y avait de la compétition, parce que je suis la fille la moins compétitive du monde. Donc, je sais faire un peu plein de choses, mais rien vraiment bien.
Mais c'est
ce qui
pas
est
mal.
Super pour mon c'est... métier.
Mais exactement,
parce
c'est
que
ce
je
que
peux
j'allais
faire
vous dire.
Illusion, vous voyez, je peux
c'est
faire
formidable.
Illusion
c'est formidable.
Sur plein de trucs, mais bon, faudrait pas y regarder trop près, quoi.
Bon, ensuite, Audrey Fleurot, vous vous essayerez à la danse. Vous êtes d'ailleurs une prodigieuse danseuse de tango qui a participé à des concours et des marathons de tango dans le monde entier. Mais la route qui mène à soi n'est pas forcément toute droite, voilà. Alors, on retrouve tout de suite Audrey Fleurot, héroïne de HPI, la nouvelle série très 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 attendue de TF1 qui démarre jeudi. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien, puisque dans, une poignée de secondes, on retrouve Audrey Fleurot, à tout de suite. Jeudi prochain, c'est très simple, nous serons tous installés devant TF1 à partir de 21h05 pour voir le démarrage d'une nouvelle série très attendu, porté par mon invité aujourd'hui, Audrey Fleurot, série qui a pour titre HPI, haut potentiel intellectuel. Voilà, chère Audrey, on continue d'agiter les souvenirs. Après des études d'histoire de l'art à la Sorbonne, vous avez intégré la fameuse École nationale des arts et techniques du théâtre, l'ENSAT, qui se trouve désormais à Lyon et qu'on appelait autrefois la rue Blanche. En fait, vous rêviez de théâtre, pas de cinéma.
Ah oui, non, j'ai jamais...
Jamais rêvé de cinéma ?
Non, j'ai jamais rêvé de cinéma. Je voulais faire du théâtre. Je ne sais pas exactement si je me suis protégée inconsciemment de tout fantasme par rapport au cinéma, parce que je sentais que c'était quand même très, très lié au physique et qu'il fallait correspondre immédiatement physiquement au personnage. Et je sentais que ça n'allait pas être évident. Et puis,
le champ des possibles est bien plus ouvert. Ne serait-ce qu'avec l'âge, par exemple, on peut jouer des femmes âgées au théâtre, même si on a 20-25 ans.
On peut jouer un chien au théâtre. On peut jouer un bébé, on peut jouer un vieillard, vous pouvez être un homme, une femme. Vous n'avez pas de sexe, pas d'âge. Le champ des possibles est bien plus large, évidemment. Au cinéma, il faut correspondre.
Il y a le casting.
Il faut avoir l'âge du rôle, ouais. le physique du rôle, voilà.
Alors, on dit que le concours de l'ENSAT est extrêmement sélectif. Vous l'avez brillamment remporté, enlevé.
Oui. J'ai commencé les cours de théâtre dans les conservatoires d'arrondissement à 14 ans.
Oui.
Et de façon intensive, hein, je me suis inscrite dans deux conservatoires différents. Ça me prenait vraiment, vraiment beaucoup de temps. J'ai fait un bac plus 2 parce qu'il fallait avoir bac plus 2 pour présenter ce concours. Donc j'étais très déterminée depuis que j'avais 14
ans. Donc ça
ans.
Veut dire qu'en fait...
C'est pas pour ça mais que...
Ça veut dire que l'histoire de l'art à la Sorbonne, c'était... Pour passer le concours de l'ENSAT ?
Ah oui, c'était pour avoir un bac plus 2 dans un domaine qui m'intéressait, c'est-à-dire l'histoire de l'art. Mais je n'avais pas prévu
de
continuer plus avant. Il me fallait un DEUG pour présenter le concours que je voulais présenter. Et je voulais quitter Paris, j'avais envie de voler de mes propres ailes et je voulais faire une école nationale pour rassurer un petit peu mes parents qui étaient évidemment en panique. Donc c'est pour ça que je n'ai pas présenté le conservatoire à Paris. J'avais en gros le TNS à Strasbourg ou la rue Blanche qui était cette année-là délocalisée à Lyon. Et sans trop réfléchir, Lyon m'a semblé plus sexy sur la carte que Strasbourg, de façon totalement gratuite, parce que je ne connaissais ni l'une ni l'autre. Et donc, j'ai tout misé sur Lyon. Et heureusement,
parce que
je n'avais pas de plan B. Là.
Vous n'aviez pas de plan B. Bon, Audrey Fleurot, vous n'avez jamais, au théâtre, même à 20 ans, incarné la jeune première. Il n'y a jamais eu en vous cette candeur, cette innocence des jeunes premières, c'est ça ?
Non.
On vous a tout de suite capté comme quelqu'un de fort et de radical.
Bah, c'est-à-dire dans une promotion où vous avez 6 garçons, 6 filles qui ont à peu près le même âge et où il faut distribuer Britannicus, par exemple, on va tout de suite me donner Agrippine, quoi. On va pas me donner Junie. Mais ça m'allait très bien parce ça a toujours été mon goût. J'ai toujours été plutôt vers des personnages forts, complexes, souvent plus âgés. Souvent les méchants.
Oui, d'ailleurs, comme le dit le journal Le Monde, dans Les Trois Mousquetaires, eh bien, Audrey Fleurot, on lui confierait directement le rôle de Milady et certainement pas celui de la douce Constance Bonacieux.
Ah non, j'aurais adoré faire Milady.
Il est
génial,
pas trop tard.
Ce rôle. Ah ouais, Milady, ça me plairait bien. Mais parce que je n'ai pas beaucoup de candeur, je n'ai pas beaucoup de naïveté.
C'est ça.
Et c'est pas quelque chose auquel je suis sensible. C'est pas ce qui m'attire le plus. Donc, d'une certaine façon, c'est pas par hasard non plus qu'on me les a pas proposés. C'est que de toute façon, j'avais pas le goût pour.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est très drôle à 20 ans de jouer des personnages de mère, voire de grand-mère. Quoi.
Incroyable. Bon, à la sortie de l'ENSAT, Audrey Fleurot, vous avez donc commencé votre carrière dans le théâtre public, le théâtre subventionné, en servant les plus grands dramaturges du répertoire. Et pendant 10 ans, vous avez foulé les scènes des plus grands centres dramatiques de France avec une vie de troupe. Ça, c'est vraiment la vie dont vous rêviez.
Ouais, j'étais exactement là où je voulais être. C'était exactement la vie que je voulais mener. J'avais la chance de travailler avec des metteurs en scène qui...
Comme Gérard de Sarthe.
Oui, j'ai travaillé avec pas mal de gens où on ne se posait pas la question de savoir si la salle allait être pleine ou pas. Elle était pleine, c'était merveilleux. Rétrospectivement, je me dis, on était dans des...
C'est un luxe.
Ah c'est un luxe, oui. Et on passait nos journées à aller voir des expositions, on allait au cinéma et puis le soir on jouait, c'était formidable.
Alors justement, vous avez joué Claudel, vous avez joué Strindberg, vous avez joué Goldoni, voilà, pour la ferveur, pour l'élévation. Et parallèlement à cette carrière, alors vous allez me pardonner, je dis ça un peu prosaïquement, parallèlement à cette carrière sur les planches, pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards, de temps en temps vous passiez des castings. Est-il vrai, Audrey Fleurot, que les gens du théâtre subventionné ont quand même tendance à penser que passer des castings pour la télé ou le cinéma, c'est un peu se dévoyer ?
Ah bah oui, clairement. En tout cas, à l'époque, c'était... C'était limite de la prostitution. Quoi. C'était
comme
vraiment...
vous y allez ? Ah voilà.
Bah oui, parce que c'était un peu de cet ordre-là. J'ai pas passé beaucoup de castings et quand j'en passais...
C'est pour ça que j'ai dit de temps en temps.
J'étais pas très...
Alors, motivée par quoi ? C'était vraiment ça, mettre du beurre dans les épinards ?
Oui, et puis la curiosité, quoi. La curiosité, de voir ce que c'était que le jeu devant la caméra, quoi. Parce que c'est vrai que j'étais pas du tout formée pour ça. Donc c'est vrai que les premiers castings que j'ai passés, je m'adressais à la caméra comme je m'adressais à une salle de 1000 personnes. Donc forcément, ça ne marchait pas.
C'est extraordinaire, ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'étiez pas du tout dans l'intériorité, mais vous projetiez pour être entendu.
Oui, oui. Je projetais comme si je jouais devant
20 mètres devant vous.
Donc je sentais les gens un peu consternés en face de moi. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, mais j'ai mis du temps à...
Mais quand on passe à casting, le directeur de casting ne vous guide pas quand même ? Ne vous dit pas, attends, là l'intention elle est belle, mais t'es pas sur une scène de théâtre, tu vas nous le refaire, intérioriser.
Si, mais il me disait, c'est trop théâtral, et je ne comprenais pas en fait. Je me disais, mais c'est trop théâtral, c'est-à-dire je joue quoi. Et je me vexais, j'étais un peu vexée, et c'est vrai que ça m'a pris du temps à me dire, mais en fait, j'avais l'impression qu'il ne fallait pas jouer, et du coup que tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais...
Est remis en question.
Oui, tout est remis en question. Là où effectivement, ça ne se passe pas comme ça, c'est une autre façon de jouer. Effectivement, ça veut pas dire ne pas jouer, c'est jouer différemment. Et ça m'a pris un petit moment pour switcher. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a des gens qui m'ont proposé des tournages directement en me voyant au théâtre, parce que je pense que sinon, je n'aurais jamais réussi.
On la retrouve tout de suite, Audrey Fleurot. Europe 1. Sa beauté est incendiaire, son talent bluffant et alors son tempérament volcanique. Audrey Fleurot incarne le personnage hors des clous de la nouvelle série très très attendue de TF1 HPI au potentiel intellectuel qui démarre jeudi à partir de 21h05. Audrey Fleurot, qu'il s'agisse d'Engrenage sur Canal, qu'il s'agisse du Bazar de la Charité désormais sur Netflix ou de cette nouvelle série sur TF1 HPI, et ben votre personnage, il a toujours le dernier mot. Est-ce que vous êtes aussi forte et combattante dans la vie vraie que vous l'êtes dans les fictions ?
Oh non, j'aimerais tellement, c'est bien pour ça que je fais ce genre de personnage.
Parce que vous n'avez pas le dernier mot dans la vie vraie.
J'ai tellement pas le dernier mot. Bah non, moi c'est justement, je fantasme ma vie comme si j'étais beaucoup plus forte que je ne le suis, bien sûr.
Alors, parlons de votre jeu dans les séries. Vous avez avoué il y a peu, bon, désormais entre les prises, je travaille sur la déconcentration. Parce que finalement, je trouve en fait plus intéressantes les choses qui me sont volées que celles que je produis. Comment vous en êtes arrivé à ce constat, ou en tout cas ce sentiment ?
En fait, venant du théâtre, j'avais un rapport très artisanal en fait au métier, où on travaille son instrument comme le font les musiciens ou les danseurs, voyez. Et donc, ça m'a pris quand même un certain temps de faire mon deuil. Je voulais prouver quoi. Enfin, je voulais. On veut fabriquer, montrer qu'on sait jouer, sortir ses tripes, tout ça. Dans un premier temps, et puis après, quand je voyais les résultats, et d'ailleurs heureusement que j'ai eu la possibilité de faire 3 jours par-ci, 3 jours par-là, qui m'ont formée en fait.
Oui, hein. Oui.
Et ben, quand je voyais le résultat, et donc j'attendais cette fameuse scène où dont j'avais le souvenir que vraiment, et j'étais super déçue.
Que vous aviez vécu en tout cas si intensément.
J'avais vécu très intensément. Je m'étais mise dans un état pas possible. Et quand je vois le résultat, je suis super déçue. Et puis, après, il y a une scène où je sais que j'ai totalement manqué d'inspiration. J'en ai un souvenir où j'étais rentrée chez moi un peu déçue, en ayant le sentiment d'être passée à côté du truc.
Et là, vous dites, mince,
je me dis,
c'est formidable.
En fait, il m'a volé un truc là, qui est super. Mais ça prend un temps fou parce qu'il faut une certaine confiance en soi. Dans un premier temps, vous produisez.
Confiance en soi et confiance en l'équipe. Confiance dans le réalisateur.
Oui, bien sûr. Mais et c'est vrai qu'une fois que je me suis rendu compte, c'est en voyant le résultat de ce que j'avais pu tourner au fur et à mesure des années, que je me suis dit, mais en fait, le travail, il est en amont. Il est quand on prépare son rôle chez soi. Ouais. Mais j'ai l'impression que sur le plateau, plus on se rend disponible, mieux c'est. Et c'est vrai que c'est aussi la chance que j'ai en tournant beaucoup, le fait que ce ne soit plus événementiel, que du coup je n'ai pas le trac comme je pouvais l'avoir auparavant. Et c'est vrai que j'essaye maintenant de vraiment rester déconcentrée jusqu'aux actions pour voir ce que ça donne, quitte à me planter. Et donc voilà, maintenant je travaille de plus en plus, en gros,
dans ce lâcher-prise.
Oui, voilà, en disant des bêtises, en déconnant tout le temps. C'est ma façon de me concentrer.
Ce qui doit être assez agréable pour l'équipe tout autour.
Je crois.
Alors, le public ignore parfois qu'au cinéma, on tourne
2 minutes utiles par jour, alors qu'à la télé, c'est 5 minutes utiles par jour.
Oh là mais là, 5 minutes, oh là là, mais plutôt du 7:30, plutôt du 8.
C'est vrai, mais n'empêche que sur une journée, ça veut dire qu'acteur, c'est quand même un sacré métier d'attente et de patience.
Énorme. Et je suis la fille la moins patiente du monde.
Alors...
Donc ça, c'est vrai que c'est pas fastoche. Quand on me parle du fait de tourner beaucoup, et si j'en ai pas marre, moi j'en ai jamais marre entre le action et le coupé. Ce qui est dur et ce qui est usant, effectivement, c'est l'attente, c'est toute la logistique autour.
Ouais.
C'est de se lever aux aurores pour se faire préparer pendant 2 heures.
Aux aurores ou se faire réveiller à 4 heures du matin pour aller tourner une scène dans le froid, sous la pluie, alors qu'on est censé être au mois de juillet,
bien
mais
sûr,
qu'il fait moins d'eux.
Il faut quand même faut dire aux gens, on ne tourne jamais la saison. C'est un truc incroyable. C'est-à-dire
c'est
que
fou, ça.
En été, on tourne l'hiver, donc on est habillé comme s'il faisait moins 15 alors qu'on crève de chaud.
Comme
et l'hiver, on tourne systématiquement l'été. Et
mais
donc,
pourquoi
mais parce que je ne sais pas. C'est un grand mystère. Et donc, c'est vrai que bah, vous pouvez vous retrouver en janvier au milieu d'un bois à 4 heures du matin et on fait comme si on était en plein mois d'août et que tout allait bien. À un moment, j'ai voulu faire une sorte... c'est trop tard, mais j'aurais voulu faire un livre avec, en prenant des photos de tous les endroits où j'ai attendu. Sur ma chaise en plastique. Et c'est toujours des endroits, mais c'est toujours sordide. On est toujours dans des trucs à côté du local à poubelle ou je sais pas. Et je me dis, mais si je faisais des photos à chaque fois de là où on attend, ça démystifierait complètement.
Voilà,
ce
sauf
métier.
Que le résultat final arrive sur TF1, sur Netflix. Voilà. Bon, alors, cher Audrey Fleurot, effectivement, vous trouvez intéressant désormais que la caméra, de plus en plus, vous vole des choses. Eh bien, dans le personnage de Morgane Alvaro, qui porte donc, et avec vos épaules à vous, la nouvelle série de TF1 HPI, qu'on va découvrir jeudi, je voudrais savoir, il y a vraiment beaucoup de vous, il y a beaucoup de vos réactions spontanées, il y a beaucoup de votre tournure d'esprit, vous avez remanié les dialogues, vous avez, parce que vous adorez mettre votre grain de sel un petit peu partout. Alors
oui, et puis il y a beaucoup d'impro, il y a aussi beaucoup d'impro,
oui.
Mais effectivement, je l'ai ramené à mon humour à moi, donc oui, elle a beaucoup de choses de moi, mais je suis évidemment beaucoup plus polissée qu'elle ne l'est. Moi, ce qui est très personnel, je crois, c'est qu'elle a l'humour très enfantin, en fait. Mais moi, j'ai un rapport au jeu qui est très ludique, qui est vraiment comme quand on est enfant et que on dirait que t'étais un cow-boy,
c'est
et que
ça,
j'étais un
comme
voleur.
Dans la cour, voilà, de récré.
Et j'aime beaucoup les personnages de. Je suis toujours. Assez touchée quand je rencontre dans la vie, il n'y en a pas tant que ça, mais vous savez, des adultes qui se comportent comme s'ils avaient 5 ans. Il y a cette liberté qu'on leur envie et à la fois, on a honte d'eux, ils nous mettent toujours dans des situations pas possibles, on passe son temps à les excuser, à essayer de rattraper le coup derrière eux, mais il y a une liberté qui, moi, me fascine. De me dire, et si de temps en temps on se comportait comme si on avait 5 ans.
Et bien Morgane le fait.
Et Morgane le fait. Et donc il y a un truc très, très, très jubilatoire qui va avec une forme d'inconscience, parce qu'elle n'est vraiment pas douée pour les rapports humains, mais ça fait du bien, je trouve.
Mais elle est si douée pour autre chose. Alors, en tout cas, voilà, cette espèce de lâcher prise enfantin, bon, voilà un exercice hautement improbable. Quand on joue Tartuffe de Molière, en français et en anglais, comme vous l'avez fait à Londres il y a 3 ans sur la scène du Théâtre Royal de Haymarket. Pourquoi un tel défi ? Et d'abord, je voudrais savoir, vous êtes totalement bilingue ?
Non, je ne suis pas totalement bilingue, j'ai énormément bossé. J'y ai passé beaucoup, beaucoup de temps. J'avais un anglais médiocre, comme les 3/4 des Français en sortant du bac.
Mais alors, pourquoi ce défi-là ?
Parce que c'est, c'est une envie.
Tartuffe ?
C'était une envie et ça correspondait à un moment où j'avais enclenché ce processus. Donc ça faisait déjà 2 ans que j'avais vraiment bossé beaucoup mon anglais. Le tango aussi, le fait d'aller danser un peu partout en Europe m'a vraiment remis le pied à l'étrier en termes d'anglais, qui est vraiment l'espéranto. Donc c'était la langue commune. Donc c'est arrivé à un moment où ça correspondait aussi à mon envie de tester ce que c'était que de jouer dans une autre langue.
Mais alors, Audrey Fleurot, joue-t-on en anglais comme on joue en français? Parce que les accents toniques sont pas du tout les mêmes, donc ça induit, j'imagine, une différence dans le jeu, non?
Ah ben c'est certain, les accents toniques, mais globalement, la langue, c'est une langue avec beaucoup plus de variations.
Oui.
Le français est très monocorde, comme ça, en fait.
C'est plus vertical, j'ai envie de dire, l'anglais.
L'anglais nécessite vraiment et c'est quelque chose qu'on a du mal à s'autoriser, en fait. On a tout de suite l'impression d'en faire beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Là où vraiment, en fait, ça fait partie de la langue. Donc, non, on ne joue pas de la même façon, mais ça modifie même un peu la façon de penser. C'est... Moi, j'adore le moment où vous commencez à penser en anglais dans votre tête, quoi. Ça, j'ai trouvé ça super.
Eh bien, alors, justement, je voudrais vous poser la question suivante. On vous compare parfois et même souvent à Jessica Chastain, star absolue à Hollywood. Votre camarade Omar Sy, avec qui vous partagez l'affiche d'Intouchable, s'est expatrié, il vit à Los Angeles et puis il participe à de très beaux projets là-bas. Pour vous, Audrey Fleurot, l'aventure américaine, c'est un fantasme? C'est pas vraiment un fantasme ou pas du tout un fantasme?
Non, je n'y ai jamais pensé. Je pense que c'est le genre d'aventure où soit à 20 ans, c'est votre projet de vie et vous
vraiment
vous expatriez là-bas et vous démarrez là-bas. Mais la perspective là de tout redémarrer dans un pays où vraiment il ne manque pas d'acteurs, hein, ils sont vraiment pas. Et puis je ça me fait un peu attraction-répulsion. Je suis vraiment profondément française. C'est-à-dire que si j'avais une opportunité d'aller travailler là-bas, je serais absolument ravie. Mais moi, d'aller faire la démarche, de redémarrer de zéro là-bas, non, ça n'a jamais été un fantasme.
Mais avoir une série distribuée par Netflix, comme c'est le cas par exemple pour le Bazar de la Charité, c'est une manière d'être connecté aux productions américaines, aux agents, aux réalisateurs américains. On vous repère, forcément.
Oui, mais après, c'est une question de disponibilité. Ça prend du temps. Il faut quand même aller faire son trou là-bas. Il faut aller se présenter. Il faut rencontrer tous les directeurs de casting.
Ça sera pour la prochaine vie.
Ouais, ça sera pour la prochaine vie. Et puis, c'est pas grave, quoi, vraiment.
Vu le triomphe ici en France, certainement, c'est pas grave. On retrouve tout de suite Audrey Fleurot.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
HPIO, potentiel intellectuel. Ça va dépoter. Alors, chère Audrey Fleurot, est-ce qu'entre deux tournages, malgré la vie privée de maman qui est désormais la vôtre, est-ce que vous avez le temps et l'énergie suffisante pour participer à des marathons de tango aux quatre coins de l'Europe, comme vous l'avez fait pendant de nombreuses années avec la communauté internationale des danseurs de tango?
Bah écoutez, non, et c'est assez douloureux même d'en parler.
C'est vrai?
Bah oui, parce que c'est dur d'être sur tous les fronts. Bon, de toute façon, je ne vous cache pas que cette année, bah, évidemment, il n'y a plus ce genre d'événement.
Oui.
Je pense que toute la communauté...
Mais je parle hors confinement, par exemple.
Non, je continue.
L'été dernier, par exemple, entre deux confinements, non? Si, vous avez continué de danser?
Si, je continue à danser, mais je ne peux plus... vous savez, c'est comme n'importe quel sport. J'ai très, très bien dansé. Et c'est comme n'importe quel sport, quand vous manquez de pratique, c'est super dur je veux dire, les marathons, il faut vraiment avoir l'endurance. Ça ne s'appelle pas marathon
oui, non,
pour
parce
rien.
Parce que c'est quand même insensé, ça dure 48 heures et en fait, on danse jusqu'à épuisement.
Ah non, ça dure 4 jours.
4 jours,
4
pire.
Nuits. Et puis les gens sont libres d'aller se coucher quelques heures, de revenir.
Mais enfin, voilà. Il n'y a quand même pas un petit côté, pardonnez-moi, un petit côté, on achève bien les chevaux?
Bah écoutez, non, parce qu'il n'y a rien à gagner. C'est ça qui est encore plus merveilleux. C'est juste des gens qui... c'est une communauté où les gens se connaissent vraiment bien dans leur propre ville. Ça ne concerne pas tant de gens que ça. Au bout d'un moment, d'aller danser tous les soirs avec les mêmes personnes, on peut s'enlacer. Donc, à l'intérieur même de la communauté, s'est développé ce genre de manifestation pour donner rendez-vous dans des grandes villes d'Europe à des danseurs justement des quatre coins de l'Europe pour pouvoir se retrouver et puis voilà, danser avec
alors,
des gens qu'on n'a pas l'occasion.
Le vrai grand plaisir, Audrey Fleurot, parce que là, c'est vraiment la danse sous son côté le plus radical, comme une expérience de l'extrême, une sorte de transe.
Oui, oui, bien sûr, mais il n'y a que à un certain niveau de fatigue et d'épuisement qu'on atteint la grâce. Mais ça, c'est le cas dans tous les sports, je pense.
Mais pourquoi le tango plutôt qu'une autre danse?
Parce que je pense que c'est la danse la plus théâtrale qui soit. apprendre le tango, c'est apprendre un alphabet. Et puis ensuite, ensemble, on va faire des mots. On va faire des mots avec la musique. Mais vous pouvez faire tous les mots que vous voulez. Mais c'est une danse d'improvisation. Donc ça a quelque chose de... Je pense que si j'ai été attirée par cette danse, c'est parce que c'est la danse de la plus théâtrale. Et l'improvisation entre deux acteurs, quand ça se passe bien, c'est du même ordre, c'est vraiment magique.
Mais entre deux acteurs qui se connaissent, parce que par exemple, concrètement, bon, alors... Vous alliez danser vraiment un peu partout dans les grandes villes d'Europe. Donc, on s'inscrit, on se retrouve, par exemple, dans un hôtel à Prague. Voilà, il y a une gigantesque salle. On va retrouver la personne avec laquelle, pendant 4 jours, on va danser. Mais quelqu'un qui connaît les figures qui vous sont familières, ou bien on désigne quelqu'un de totalement inconnu avec qui vous allez danser pendant 4 jours. Et là, alors effectivement, c'est de l'impro qui part vraiment de zéro.
Non, alors déjà, on danse avec plein de gens. C'est ça l'intérêt numéro
un. Ça change.
Ah ben bien sûr.
Tout au long des 4 jours.
Bien sûr, c'est pour ça qu'on se donne rendez-vous. C'est pour danser avec un maximum de danseurs et de danseuses qui ne sont pas de notre ville. C'est pour danser avec d'autres gens. Donc non, on passe de danseur en danseur. Vous dansez aussi longtemps que vous voulez avec la même personne. Et puis on a tous appris la même danse. Après, la façon de l'interpréter, c'est ça qui est agréable. C'est justement de passer d'un danseur à un autre. Parce que vous avez beau danser la même danse, c'est une toute autre énergie. Vous avez l'impression de danser une nouvelle danse à chaque fois, quoi. Et
vous avez remporté des concours de tango?
Non, j'ai jamais passé. C'est pas du tout le même. Le tango de salon n'a rien à voir avec le tango argentin. C'est une autre
danse.
Quelles
sont les différences ?
Bah, c'est d'autres critères. Ça, c'est du tango de représentation, de concours, avec une totale autre grammaire, en fait. C'est vraiment une autre danse. Le tango argentin, comme je le danse, il n'y a pas de finalité. Ça nous semblerait totalement farfelu de gagner quoi que ce soit. On est vraiment là pour le plaisir, pour l'échange, pour le moment de grâce. C'est quelque chose d'intime. C'est pour ça aussi que c'est compliqué pour moi, parce que j'en ai parlé une fois et dans un cadre très précis. Et en fait, ça ne m'appartient plus, puisque maintenant, on m'en parle systématiquement. On me demande de danser sur des plateaux télé sans me demander auparavant si j'en ai envie. Pas
non, mais moi,
envie,
parce que je trouve ça prodigieux. Parce
je
que...
sais bien, mais c'est quelque chose vraiment.
Mais par exemple,
c'est compliqué,
voyez,
à transmettre.
Je vous pose la question, je vous interroge sur le tango, parce que je me demande pourquoi on ne vous a jamais proposé de comédie musicale. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous propose une comédie musicale?
Bah, j'adorerais qu'on me propose une comédie musicale. Mais on n'en fait pas beaucoup en France.
C'est pas vrai.
C'est pas notre forme. Et moi, vous savez, j'ai fait un film sur des catcheuses pendant 2 mois. J'ai fait du catch intensément. Il y a peu de choses qui m'enthousiasmeraient plus que de travailler, décorer.
Alors par exemple, mêler le jeu à la danse, comme dans le film Cabaret. Ça, ce serait une sorte de Graal.
Ah, là, ce serait merveilleux, ouais. Pour peu qu'il y ait du chant avec, ce serait formidable, ouais.
On retrouve tout de suite Audrey Fleurot. Audrey Fleurot, vous serez où jeudi soir à 21h quand va démarrer le premier épisode de HPI, la série dont vous êtes l'héroïne sur TF1?
Ah, je serai devant ma télé.
C'est vrai?
Ouais, je serai devant ma télé avec les enfants qui ne l'ont pas vue.
Ça va être joyeux, ça.
Bah, j'espère, oui. En tout cas, ça me tient très à cœur, quoi. Donc, on sera complètement devant notre télé.
C'est pas évident, hein, de se regarder comme ça sur ce que j'imagine être un très grand écran, entouré de ceux qu'on aime et qui, soudain, découvrent... alors, par exemple, je parle des enfants, la maman dans un rôle rebelle, fantasque, drôle, insoumis, hors des clous. Ils vont vous regarder comme ça, en biais.
Ah bah surtout
enfants.
Que c'est le public le plus...
c'est le plus redoutable.
Le plus redoutable, ouais. Donc, je vais avoir un peu les miquettes, hein, je pense.
Les miquettes, dit-elle.
Les miquettes.
Bon, Audrey Fleurot, est-ce que vous aimez, au fil des épisodes d'une série, est-ce que vous aimez être... Elle est déstabilisée par l'imaginaire des scénaristes qui ont tout pouvoir sur les personnages, sauf bien sûr sur l'héroïne, parce que elle, bon, l'héroïne, elle est là, voilà, jusqu'au bout de la série. Mais les personnages qui sont malmenés, comme le destin peut le faire avec nous, anonymes dans la vie, ça vous amuse de découvrir les manuscrits au fur et à mesure ?
Ah bah ça, c'est à chaque fois, enfin, j'ai eu la chance de travailler sur pas mal de séries et sur du long terme. On attendait les scénarios comme les cadeaux de Noël, quoi. On trépignait, hein. C'est à chaque fois, on se demande à quelle sauce on va être mangé. Et puis, bah, il y a des fois des déceptions. Des fois, on est ravi. Enfin, mais c'est vrai que là, je suis à un moment de ma carrière où je suis contente aussi de pouvoir faire des propositions, ouais. De participer plus activement parce que j'ai envie d'une forme d'engagement plus complète que juste d'arriver en bout de chaîne. C'est quelqu'un, hein, quand vous êtes acteur, vous arrivez au bout de la chaîne et puis vous jouez.
Mais là, vous portez HPI. Donc, il est assez logique que vous mettiez votre nez dans les scénarios, enfin,
En tout cas, que je fasse des propositions. Et puis, c'est vrai que voilà, j'ai envie de faire des propositions à tous les niveaux, évidemment sur les réalisateurs et réalisatrices.
Alors, je précise que c'est le réalisateur de Profilage et de Balthazar qui réalise HPI, n'est-ce pas ?
Vincent Jamin, oui, qui a fait effectivement les quatre premiers. Et c'est vrai que bah, grâce aux séries, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de réalisateurs et réalisatrices. Et,
bah, c'est et vrai vous que passerez c'est... quand à la réalisation ?
Oui, j'aimerais bien, bien sûr. Mais c'est vrai que je suis encore tellement contente de faire ce métier. J'ai la chance d'être beaucoup sollicitée. Donc c'est vrai que c'est pas totalement ma priorité non plus. Mais je sens que je sens que c'est la prochaine étape parce que j'ai envie d'être plus impliquée globalement dans les projets et HPI me permet justement d'être un niveau plus actif que je n'ai pu l'être jusqu'à présent.
Alors, avec TF1, Audrey Fleurot, depuis le triomphe du bazar de la charité, c'est une vraie histoire d'amour parce qu'en 2022, on vous retrouvera donc sur la Une. Dans Les Combattantes, une série historique avec les deux autres héroïnes du Bazar de la Charité, Julie de Bonnat et Camille Lou. C'est très très rare ça, de reprendre un trio d'actrices pour le transposer dans une autre histoire à une autre époque.
Oui, j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu, mais je trouve l'idée super. C'est-à-dire que plutôt que de faire une suite du bazar,
voilà.
Qui aurait été peut-être un peu tirée par les cheveux parce qu'il n'y avait pas de nécessité, eh bien, de se dire c'est quoi les ingrédients du bazar qu'on a aimé ? C'est l'idée de la grande fresque historique, c'est l'idée de combat de femmes, de personnages féminins forts, et c'est ce casting avec ces trois actrices. Et Je pense que l'idée d'Iris Buchner, qui est la productrice, je la trouve vraiment bonne de garder le même réalisateur, voilà, Alexandre Laurent.
Qui avait réalisé donc le Bazar de la Charité.
Voilà, on garde tous ces ingrédients qui nous ont beaucoup plu dans le bazar, mais à une autre époque. Voilà.
En fait, aujourd'hui, la télé aurait plus de moyens que le cinéma, à votre avis ?
En ce moment, oui, j'ai l'impression que la télé a plus de moyens que le cinéma. Et puis surtout, la télé a plus de beaux rôles, notamment pour les femmes. Donc, c'est vrai que ce clivage télé-cinéma n'existe plus vraiment parce que les acteurs, les actrices, ils ont juste envie de jouer, quoi. Donc, ils réfléchissent pas en termes de médium, quoi.
Audrey Fleurot, j'ai commencé cette conversation en disant « Elle voulait tout, elle a tout ». Alors, bien sûr, c'est une façon de parler. Si on cherche... Que vous manque-t-il ?
Oh là, plein de choses.
Plein de choses ?
Non, mais j'espère être étonnée par ce que je vais lire dans le futur. J'espère... voilà, moi, j'adorerais faire un zombie, par exemple. Vous voyez, on ne fait pas assez de films de zombies. Ben oui.
Allez, parce que j'ai une annonce, super... un scoop sur Europe 1.
J'adorerais faire, je ne sais pas, une pirate. Vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent m'attirer. Et puis, plus c'est étonnant, mieux c'est, hein.
Il doit être complètement fasciné par sa mère, Lou.
J'aimerais tellement qu'il soit fasciné.
Mais il l'est. Sa mère qui rêve de jouer un zombie, une pirate.
Je sais pas, je crois que des fois, il aimerait que sa mère soit un peu plus là, surtout. Il est plus terre à terre que ça.
Oui, mais sa mère, elle est très, très, très demandée par le cinéma, le théâtre, la télévision. Alors, jeudi, 21h05, ben voilà, c'est très simple. On sera devant TF1 pour HPI. On est impatients et c'était vraiment... Mais vraiment, très très grand plaisir de vous accueillir, Audrey Fleurot.
Merci beaucoup, merci.
Mille et belles choses à vous. À bientôt.
À bientôt.
Juste après l'info, Stéphane Bern et Mathieu Noël vous attendent pour Historiquement Vôtre.